le cœur.
Allons donc.
Carré d'As, l'émission qui ne pique pas, mais qui a du cœur.
Carré de roi.
Carré d'As. Dommage.
Impossible. Ma cinquième carte était un as.
Je déteste être accusé de tricherie, surtout quand je joue.
À présent, enlève ton costume. Nous allons continuer avec 52 cartes seulement.
Carré d'As, l'émission qui ne pique pas mais qui a du cœur.
Allô, allô.
Chut, ça tourne.
Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à la troisième saison de l'émission de Carré d'As, une émission préparée depuis quelques semaines avec les nouveaux volontaires en service civique du centre social et des fidèles du lieu.
Aujourd'hui, on est filmé et enregistré à la Vierge Noire dans le centre social de Carré d'As. Je suis Maëva et pour m'accompagner au micro, Léa Sivano ainsi que Célia.
Aujourd'hui, nous allons nous interroger sur la thématique du zéro déchet au travers d'interviews enregistrées et d'autres que l'on réalise aujourd'hui dans le plateau ici à Carré d'As.
Et on accueillera aussi sur le plateau Mathieu Durepère et Camille Lenant qui a participé au défi des familles zéro déchet.
Mais avant de continuer, pour que tout le monde comprenne, Célia, quelle est la définition du zéro déchet ?
C'est un mouvement visant à réduire au maximum notre production de déchets en passant par l'achat ou la création de produits réutilisables. Le zéro déchet, c'est aussi le recyclage, le compost et l'achat de nourriture dans des magasins de type vrac afin de diminuer nos emballages, aussi dans le but de préserver notre planète.
Et maintenant, on va continuer avec un petit enregistrement de Silvano que tu as réalisé ici au centre social avec des membres de l'association En Vrac l'Ouest. Et d'ailleurs, qu'est-ce que c'est l'association En Vrac l'Ouest, Silvano ?
Eh bien, c'est une association créée par des participants au défi Famille Zéro Déchet qui a pour objectif de promouvoir le mode de vie zéro déchet comme étant un levier de transition écologique. Et pour commencer, je vous propose d'écouter Nathalie qui nous parle du compost.
Bonjour Silvano.
Bonjour Nathalie.
Enchantée.
Enchantée.
Est-ce que tu pratiques le compost ?
Oui, je pratique le compost depuis un an et demi maintenant. Donc c'est tout récent. Hein.
On t'en a parlé ou t'en as juste dit, bah tiens, je vais commencer par ça
Alors en fait, je suis rentrée dans le zéro déchet. Voilà. Et lors d'un des premiers ateliers que j'ai suivi, c'était le compost. Donc ça tombait bien. Et à l'issue de cet atelier-là, puisque quand on fait partie du zéro déchet, on nous fournit justement la caisse à compost,
okay,
qui est donnée par la communauté de communes de Morlaix. Donc là, j'ai commencé il y a un an. C'est vraiment super parce que du coup, beaucoup moins de déchets dans ma poubelle. Ma poubelle noire, je la vide peut-être une fois par mois maintenant seulement. Donc et tous les déchets alimentaires se retrouvent dans le compost. Voilà. Et ça nourrit la terre, et après ça nourrit les plantes, le potager, et voilà, c'est un cercle.
Un cycle au final, on redonne ce qu'on a pris et ça.
C'est ça, tout à fait.
Tu trouves ça plutôt facile ou compliqué au début ?
Au début, un petit peu compliqué parce qu'il y a des couches à respecter dans le compost avec des zones. Des comment on appelle ça de l'herbe, des fois des brindilles, apporter des matières sèches, humides. Mais une fois qu'on a compris le processus, non, ça va, c'est pas si compliqué que ça. Puis c'est marrant de voir la décomposition au fur et à mesure du compost. C'est ça. Tout à fait.
Et tu fais que ça ou tu fais aussi, je sais pas, un peu savon
Oui. Je fais tous mes produits d'entretien, je fabrique mon savon à saponisation à froid, je fabrique mon shampoing, c'est du shampoing sec, hein. Je fabrique ma lessive, enfin j'essaye de faire vraiment le maximum de choses moi-même. Et c'est enrichissant, et ça fait des économies en plus financières, et en plus on prend soin de notre santé, puisque du coup, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens et ce genre de choses dans les produits.
Ce qu'on met dedans.
C'est ça, tout à fait. Ouais.
Ah, c'est dans la boîte.
Merci.
Et de retour à Carré d'As pour cette émission spéciale Zéro Déchet, nous accueillons tout de suite Mathieu Durepère pour lui poser quelques questions.
Donc, bonjour Mathieu.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter enfin dire qui vous êtes en général.
Ouais, je vais surtout présenter l'association Le Repère.
D'accord.
Donc je suis un des fondateurs de l'association. On est quatre à avoir créé ce projet-là. C'est une recyclerie de matériaux. Donc c'est-à-dire que notre activité, c'est de récupérer les matériaux qui sont considérés par les entreprises comme des déchets, alors qu'ils peuvent être encore utilisables, mais parce qu'elles n'ont pas le temps, pas les filières qui n'existent pas. Enfin bref, on est là un peu pour être le chaînon manquant du réemploi. Donc nous, on récupère, c'est-à-dire tous ces matériaux-là, dans un local appelé Berchrist. On les nettoie, on les met en valeur, avec l'aide aussi de Lucien, qui fait partie de votre équipe, qui est là le mercredi. Et on les met après en vente à prix solidaire. Donc on est dans le réemploi, c'est-à-dire qu'on vend les choses dans le même état, pour qu'elles servent à la même chose, ou ça peut être un usage qui est détourné. On ne va pas recycler. Recyclage, c'est-à-dire qu'on va transformer la matière. Donc ce qui implique du transport, une grande débauche d'énergie pour transformer la matière, du transport pour l'emmener, que ce soit vendu ailleurs. Donc nous, on essaie d'être le plus économe en énergie pour que les matériaux puissent retrouver un usage et une deuxième, voire une troisième vie après derrière.
D'accord. Et d'où ça vient le repère exactement ?
Le repère, d'où ça vient, c'était une idée qui est partie il y a 5 ou 6 ans maintenant. J'avais fait avec un ami un Tour de France à vélo. Tour de France de l'urbanisme autogéré. On voyait un peu partout en France des groupes d'habitants qui s'organisent et qui montent des projets pour améliorer leur quotidien, et leur village, leur ville. Et puis on était tombé sur des recycleries un peu partout en France et on s'est dit, bah oui, c'est ça qu'on a envie de faire plus tard, l'un comme l'autre. Donc Franz, l'ami avec qui j'ai fait ça, maintenant il a monté sa recyclerie de matériaux L'Écrouvisse à Redon. Et puis moi à Morlaix, avec des amis de Morlaix qui étaient motivés pour monter le projet avec moi.
D'accord. Et pourquoi vous êtes lancé dans ce projet exactement ? Alors, quelles sont les raisons ?
C'était pouvoir faire un travail qui, dans lequel on se plaît, qui fasse sens pour nous, qui fasse du bien à la fois à nous, dans le cadre de travail qu'on s'est mis en place, et qui fasse du bien autour de nous, par les services qu'on rend aux gens, qui fasse du bien aussi à la planète.
D'accord. Et qu'est-ce qu'on trouve au repère comme matériel, par exemple ?
Alors, on va pouvoir trouver pas mal de bois, en planches, en panneaux, en tasseaux. On va trouver des portes, des fenêtres. On va trouver tout ce qui est autour de la plomberie, la quincaillerie, le chauffage sanitaire, de l'outillage. On va trouver également des tuiles, de l'ardoise, pas mal d'éléments de mercerie, du sky, du cuir, tout ce qui est matière et matériaux en fait de construction, tout ce qu'on peut avoir besoin pour construire et équiper une maison.
D'accord. Et c'est quoi le quotidien d'une recyclerie ?
Le quotidien, là c'est le démarrage, nous ça fait 5 mois qu'on a ouvert nos portes à Pleyber-Christ. Et du coup le quotidien il est encore un peu en train de se roder, mais il y a plein de choses. Donc c'est appeler des entreprises pour voir quels sont les matériaux qui leur restent un peu sur les bras, s'organiser avec elles, pour après aller avec le camion faire des collectes. Une fois que c'est arrivé à l'entrepôt, et ben c'est déchargé, nettoyé, mettre en rayon. Le quotidien, c'est aussi les jours où les magasins sont ouverts. Donc c'est le mercredi, le samedi et puis l'après-midi du vendredi. Bah, c'est tenir le magasin, expliquer aux gens c'est quoi le projet, les conseiller, faire pas mal de recherches parce qu'il y a tellement de choses que nous, on ne s'y connaît pas encore sur tout. Et il y a un élément qui peut être un peu compliqué pour les gens au départ, c'est le prix libre. Voilà, nous, c'est un magasin solidaire, c'est-à-dire qu'on souhaite que ces matériaux-là, dont on a besoin pour construire, rénover, faire des extensions ou faire des petits projets de création, on veut que ce soit accessible à toutes et tous. Donc on pratique le prix libre qui permet à tous les budgets d'avoir accès à ces matériaux-là. Donc c'est aussi un cap à franchir pour les gens, de dire bon, combien ça vaut ça ? Donc on leur demande de juger la qualité du produit, son état, le besoin. Est-ce que c'est un besoin absolu ou est-ce que c'est du bonus ou pas ? Et puis de jauger aussi selon le coup de pouce qu'ils veulent donner à l'association.
D'accord. Et qui vient au repère, par exemple ? Est-ce que c'est toujours le même type de personne ou ça change à chaque fois ?
On a pas mal de profils différents. Ce qu'on va avoir, le profil le plus fréquent, c'est les familles de la quarantaine, cinquantaine qui bricole dans sa maison, qui veut faire une extension ou qui a des choses à changer. On a de plus en plus aussi de gens qui auto-construisent ou rénovent une vieille baraque où il y a tout à changer, tout à refaire. Et ben pour eux, c'est un bonheur absolu de pouvoir trouver le repère. et pas mal de plus en plus aussi de groupes de colloques de jeunes qui vivent dans les monts d'Arrée, qui viennent aussi trouver chez nous tout ce qu'ils ont besoin pour vivre plus confortablement.
D'accord. Et à votre avis, est-ce que le regard des gens évolue sur le sujet du zéro déchet et sur les recycleries en général ?
Ouais, je pense que totalement. Il y a une des choses pour un élément pour lequel justement je voulais créer cette recyclerie dans une petite ville en Bretagne. Je voulais pas sortir de Bretagne et que Morlaix, je trouvais ça super pour ça. C'est que il y a un brassage social qui est très fort. Ici, on parle facilement à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et du coup, voilà, je ne voulais pas faire ça en grande ville où ça aurait été peut-être qu'un public de niche, des gens déjà convaincus qui auraient été là. Et là, en arrivant à Morlaix, tout le monde se parle déjà. Ça permet d'avoir un peu tout le panel de la population, donc des gens qui n'étaient pas forcément très sensibles à ça au départ et qui viennent, qui nous voient fonctionner, qui voient ce qu'on fait, qui trouvent ça sympa parce que c'est le bon sens, c'est la débrouille et c'est des valeurs qui sont très répandues et qui ne demandent qu'à fleurir comme ça. Donc on essaye de permettre ça. Et après, savoir si ça change totalement leur quotidien, leur rapport sur d'autres sujets, est-ce qu'ils vont se mettre au zéro déchet totalement, ça, je peux pas encore dire. Mais en tout cas, je pense que ça les sensibilise.
D'accord. Et dernière question, c'est quoi la suite du repère ?
La suite du repère, c'est de faire déjà de plus en plus de chantiers de déconstruction aussi qu'on mène aux alentours. Donc on va directement récupérer sur place les matériaux nous-mêmes. Donc ça c'est bien, ça nous fait aussi varier un petit peu notre quotidien. Et le gros projet qui arrive, donc pour la fin d'année, normalement ça devait être au printemps, mais ça plutôt être vers la fin d'année, c'est un atelier partagé. Donc c'est-à-dire c'est un atelier bois. Il y aura toutes les machines qu'il faut pour travailler le bois qu'on trouve chez un menuisier par exemple, avec aussi cabine de peinture, de vernissage, un espace pour travailler le métal. Donc là, l'idée c'est que ce soit ouvert aux particuliers qui n'ont pas la place, pas les outils, pas les savoir-faire, les compétences pour venir réaliser leur projet. Donc cet atelier, il sera accessible sur un abonnement au prix le plus modique possible. Et les gens pourront venir après avoir suivi une formation encadrée par des personnes. Et cet atelier, il sera aussi utilisé par des créateurs, des créatrices qu'on va accueillir en résidence pour créer des objets fonctionnels du quotidien à partir de matériaux de réemploi. Plutôt de designer, mais pas que. Il nous servira aussi pour les activités de recherche et d'expérimentation. Donc là, pour accueillir des bricoleurs, des ingénieurs, des inventeurs qui vont développer des solutions low-tech pour demain. Et donc avec, on organisera pas mal de stages, de formations. Donc on pourra venir, par exemple, un jour, venir apprendre à créer une éolienne en bois au repère, par exemple.
D'accord.
Merci beaucoup à Mathieu. Et voici tout de suite Chain of Fools de l'album Lady Soul d'Aretha Franklin 1968.
Having a good time. That's a sound of pain. Change, change, change. Thank you.
Vous écoutez Caridas, l'émission sur le zéro déchet, et direction Les Jeannettes, une épicerie qui fait du vrac au centre-ville de Morlaix, mais pas que.
Du coup, je m'appelle Pauline, j'ai 30 ans et je gère l'épicerie des Jeannettes que j'ai créée en décembre 2018. Voilà,
c'est d'accord. Pourquoi vous avez choisi Les Jeannettes comme nom ?
Alors, Les Jeannettes, c'est parce que avec mon ancien associé, on avait une association qui s'appelait Les Jeannettes et c'est le nom des filles scouts. Et du coup, avec l'association, on faisait un petit magazine dans lequel on donnait des astuces pour se débrouiller un peu tout seul avec les moyens du bord. Et c'était guidé à travers un territoire. Donc, il y a la petite notion de scout.
Qu'est-ce qui t'a donné envie d'ouvrir une épicerie comme ça ?
Pas mal de choses. Ça a commencé par un voyage. J'ai voyagé en Nouvelle-Zélande pendant un an et on habitait avec mon copain dans un monospace qu'on a aménagé, donc dans un espace très restreint. Et du coup, on a dû apprendre à voyager avec nos poubelles parce qu'on ne peut pas forcément les déposer partout. Tous les campings ne sont pas équipés, tous les endroits où on dormait n'étaient pas équipés. Du coup, on apprend à réduire un petit peu, à se limiter. C'est pareil, on était tout le temps, on prenait des douches, enfin, on se lavait dans des rivières, des choses comme ça. Donc, on commence à réfléchir à qu'est-ce qu'on est en train de mettre dans la rivière, qu'est-ce qu'on... Du coup, il y a toute une réflexion comme ça. Après, j'ai commencé à faire mes cosmétiques moi-même. Après, j'ai commencé à vraiment m'intéresser au vrac et je me suis dit que ce serait bien qu'il y ait une épicerie vrac à Morlaix. Et il n'y en avait pas, donc c'était l'occasion de la faire.
Et où est-ce que tu te fournis pour avoir les produits ?
J'ai énormément de fournisseurs différents. Quand je peux, je fais au plus proche, donc localement au possible. Après, c'est pas possible pour tout, évidemment. Après, j'essaie de travailler, même si c'est pas forcément local, j'essaie de travailler en direct avec les producteurs. Et si c'est pas possible, j'ai des grossistes qui sont beaucoup en Bretagne aussi d'ailleurs. Hein. Donc on essaye de faire en sorte que le circuit soit le plus court possible.
Le plus proche de chez nous, quoi.
D'accord.
Est-ce que tu as vu une évolution depuis que tu as ouvert par rapport à la clientèle ? Est-ce que ça a évolué, changé ?
Ouais, il y a de plus en plus de monde tout le temps. De plus en plus de monde, de tous les âges, de tous les porte-monnaies. Hein. Y a des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, il y en a qui en ont un peu, d'autres qui en ont beaucoup. C'est beaucoup de gens qui sont curieux et qui sont super intéressés.
D'accord.
Est-ce que tu peux donner ta définition du vrac ?
Alors, le vrac, c'est pouvoir acheter sans l'emballage superflu, acheter la juste quantité. Comme ça, on évite le gaspillage finalement, parce qu'on prend vraiment la quantité qu'on veut. Ça évite d'avoir le fond de paquet de pâtes qu'on connaît tous à la maison. Voilà, c'est pouvoir acheter la juste dose. Au prix le plus juste aussi, parce que du coup on paye pas l'emballage qu'il y a avec. Et c'est réduire les déchets, réduire le gaspillage, réduire la pollution.
D'accord. Et est-ce que le vrac coûte cher selon toi, enfin dans la globalité ?
Ça dépend. Ça dépend sur quoi. Il y a des produits qui vont être chers et il y a des produits qui vont être moins chers. Faire ses produits ménagers, c'est pas cher. Quand on est dans le vrac, quand on fait du zéro déchet, faire ses produits ménagers, mais on réduit la facture. En fait, on a besoin de vinaigre blanc, de bicarbonate de soude. C'est deux produits pour les... Enfin, on peut tout faire avec. Les cosmétiques, c'est pareil. Si on les fait soi-même, ça revient vraiment pas cher. Après, c'est comme dans tout. Si on achète les choses déjà faites, un shampoing solide déjà fait, à un certain coût, il dure longtemps. Mais voilà. Après, ça dépend à quoi on compare aussi. Mais c'est pas forcément plus cher si on va pas dans les excès, comme quand on va au supermarché et voilà, qu'on cesse de raisonner sur ce qu'on achète finalement.
Et quels sont les avantages et les inconvénients du vrac ?
Alors, l'avantage principal, je dirais que c'est qu'on peut prendre des petites quantités pour pouvoir goûter ou pour pouvoir essayer les produits.
Oui.
Le désavantage, ça devient vite encombrant d'aller faire ses courses. Parce que quand on va au supermarché, on prend juste un sac cabas. Ici, il faut se préparer. Donc, il faut avoir sa liste de courses, il faut avoir ses bocaux, il faut avoir ses sacs. Voilà, c'est de l'organisation. Ça va vite.
Et à ton avis, est-ce que les gens viennent aux Jeannettes juste pour le vrac ou pour autre chose aussi ?
Je pense qu'il y a un tout. Les gens viennent pour le vrac, les gens viennent pour le bio, les gens viennent pour le petit commerce aussi. Les gens viennent pour discuter. Parce que y a un contact humain, on reste discuter avec les gens. J'ai l'impression et j'espère que les gens se sentent bien ici. C'est plus que venir faire ses courses, finalement, on vient passer un moment, quoi.
Oui. Et dernière question, et à ton avis, à quoi va ressembler le vrac dans 10 ans, dans le futur ?
Le vrac dans 10 ans, bah, j'espère qu'il sera vachement plus répandu, déjà, sur beaucoup plus de produits. Et j'espère que les fournisseurs feront beaucoup d'efforts aussi, parce qu'on a... voilà. Nous, on génère des déchets. On fait en sorte que les gens n'en génèrent pas. Mais nous, on en génère parce qu'on n'est pas toujours livré dans des sachets en craft. Voilà, c'est du plastique. Nous, on les réutilise, on fait des sacs poubelles avec. Mais voilà. Donc, le vrac idéal, dans 10 ans, c'est un vrac sans plastique.
Bah, c'était la dernière question.
Donc, merci d'avoir répondu à nos questions.
Merci d'être venu.
C'était cool. Super intéressant aussi.
Du coup, ça fera 19 euros si tu peux faire 4. Le ticket de carte. Est-ce que tu veux que j'imprime le ticket de caisse ?
Non, c'est bon.
Et merci à Pauline d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Et tout de suite, nous accueillons Camille Lenan. Donc, bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ?
Je m'appelle Camille, je suis maman de deux enfants. Et donc, j'ai eu vent du défi via une amie qui l'avait suivi. Et donc j'ai commencé le défi en 2019, donc là je l'ai terminé.
En quoi consiste le défi d'une famille zéro déchet ?
Alors donc le défi des familles donc à Morlaix Communauté, on va parler d'un programme, c'est un programme de 6 mois. Donc il y a 4 suivis avec un coach, donc 4 rendez-vous, donc une première pesée, une pesée de début, une pesée de fin pour avoir un avant et un après. Et puis également 2 rendez-vous de suivi. Pour nous aider en milieu de parcours, si on a des questions, des interrogations sur certains gestes. Et parallèlement à ça, donc mensuellement, on a 5 ateliers qui sont proposés, donc sur des thèmes variés. Il y a des thèmes, je dirais, fixes, par exemple, comme le compostage, les poules, les produits d'entretien. Et puis des thèmes moins récurrents, mais tout aussi intéressants. Là j'ai participé à un atelier sur les graines germées, où il y a aussi des conférences et des visites de sites. Par exemple, on avait été visiter les locaux de Célawatt. Voilà.
Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce défi ?
Eh bien, moi, mon premier déclic... Souvent, c'est ça, on a toujours un premier déclic. C'est à la naissance de mon premier enfant. Je cherchais en fait à lui acheter une lessive dite saine. Et là, j'ai commencé à lire les étiquettes sur les produits. Et je me suis rendu compte que, bon, hypoallergénique ne voulait pas forcément dire produit sain. Et donc, c'est comme ça que vraiment, je suis rentrée dedans. J'ai décidé de faire moi-même ma propre lessive. Et puis, c'est gratifiant, mais on a aussi des ratés. Donc, justement, quand j'ai eu vent du défi, je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir avoir des recettes, mais avec vraiment des personnes dont c'est le métier, donc des choses qui fonctionnent. Et puis, c'est aussi l'occasion de rencontrer des gens, de partager, d'échanger. C'est tout cet environnement-là vraiment qui m'a donné envie d'y aller.
Qu'a pensé votre entourage quand vous avez commencé ce défi ?
C'est souvent, les réactions sont souvent assez variées et contradictoires. Certaines personnes, elles adhèrent, mais sans forcément vouloir elles-mêmes changer leurs habitudes. Elles sont plutôt curieuses. D'autres personnes ne comprennent pas pourquoi ce changement de vie, puisque c'est vrai que souvent, justement, les gens qui font le défi, c'est pas juste un geste que vous changez, c'est vraiment c'est un tout. Donc, ça peut porter à questionnement. C'est le regard n'est pas toujours très, très agréable, mais une fois qu'on commence, on est vraiment convaincu d'aller dans le bon sens. Et le collectif fait que ça peut que nous encourager à y aller, puis faire un petit peu abstraction des idées des uns et des autres. Et au contraire, justement, aussi par petites touches, par exemple, dans des événements comme Noël, c'est l'occasion aussi de convertir son entourage avec des gestes peut-être qui sont plus faciles. je sais pas moi, comme Noël dernier par exemple, des emballages cadeaux réutilisables et pas jetables, qui sont beaucoup plus jolis en plus, je trouve, mais je pense que vous partagerez peut-être mon avis. voilà.
Et quel changement avez-vous remarqué depuis le début dans votre quotidien ?
Des changements, c'est-à-dire ?
Des changements par rapport à votre consommation, aux déchets
Déjà, comme ça a pu être dit aussi précédemment dans votre émission, on voit vraiment assez rapidement une diminution drastique du poids des poubelles, que ce soit sur les recyclables, donc le fait d'acheter en vrac notamment, mais aussi sur le poids de la poubelle d'ordures ménagères, puisque souvent, lorsqu'on commence la démarche, on met en place, si on n'a pas encore, un composteur. Et le composteur, il faut quand même savoir que c'est à peu près un tiers de votre poubelle en moins. Donc c'est juste énorme, avec juste ce simple geste-là. Ensuite, ça, ils le mentionnent aussi sur leur plaquette. Il y a la notion quand même de budget qui est quand même très importante aussi à prendre en compte. Là, par exemple, à Morlaix-Communauté, ils indiquaient que sur l'ensemble des familles qui ont participé, donc une famille, donc deux adultes, deux enfants, sur une année, c'est quand même en moyenne 800 euros d'économie. Donc toujours pareil, en ayant une démarche globale. Et puis c'est aussi du plaisir en fait, des temps partagés avec mes enfants que j'avais pas forcément pensé avant. Je sais pas, par exemple, je me retrouve le dimanche à faire de la lessive avec mon fils de 5 ans. Voilà, faire des gâteaux avec eux. Il y a notion de temps quand on fait les choses soi-même, mais c'est vraiment c'est une autre notion du temps, vous voyez, c'est vraiment le temps, partage, plaisir, plutôt pousser son caddie et le remplir. Ça n'empêche pas qu'on est quand même aussi à faire des courses. Hein.
Quels sont les avantages et les inconvénients du zéro déchet ?
On va commencer par les avantages. les avantages, le premier, c'est celui qui donne du sens, vraiment, c'est contribuer à la préservation de l'environnement. Ça paraît logique que si vous achetez, par exemple, quelque chose en vrac, du fait de ne pas avoir l'emballage, Pauline, donc Déjanette l'a bien expliqué. Après, il n'y a pas tout ce processus justement de recyclage qui est très énergivore. Il y a aussi le fait de faire les courses, on le fait autrement, donc on va plutôt aller sur des commerces de proximité. Donc c'est notre aussi relation avec son commerçant. C'est des valeurs humaines qui sont intéressantes. C'est aussi on redécouvre le goût. Voilà, moi personnellement, j'aimais pas spécialement passer du temps en cuisine, et puis c'est vrai que je le fais pour mes enfants. Et faire soi-même des gâteaux, si on prend l'exemple des gâteaux, c'est vous qui dosez votre taux de sucre, vous rendez compte aussi qu'il y a plein de cochonneries dans ce que vous pouvez acheter de dit tout fait. Donc c'est ça aussi. Et puis c'est une manière du coup de protéger votre santé, de manière générale. Si je devais en citer un dernier avantage, c'est celui que j'ai déjà dit précédemment, c'est-à-dire les économies. Qui sont quand même pas loin d'être négligeables. Si on parle d'inconvénients, je dirais dans un premier temps le temps de se réorganiser, puisque forcément on passe d'un mode j'achète du tout fait à je fais les choses moi-même. C'est aussi pour ça que quand on commence dans la démarche, souvent on nous encourage et on nous redit qu'il faut y aller progressivement, un pas après l'autre. Des fois aussi, ça peut être un petit peu casse-pied, mais c'est une question d'habitude de prévoir toujours son kit zéro déchet avec soi. Quand on va faire les courses ou quand on sort, avoir sa gourde, avoir son mug. C'est les inconvénients que je pourrais citer.
Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez changer dans l'avenir qui est impossible à l'heure actuelle ?
Alors, j'aimerais bien, moi, que l'accès au vrac soit plus facile pour tout le monde. Parce que c'est vrai que suivant où on habite, on n'a pas forcément la même proposition. Et c'est même un peu frustrant aujourd'hui de se rendre compte que finalement, quand on habite en ville, on a une offre qui est beaucoup plus large que quand on habite en campagne. Il commence à y avoir aussi une démocratisation du vrac sur un certain nombre de produits, comme les confitures, les yaourts notamment. Mais ça reste encore à une toute petite échelle. Donc ce point-là sera intéressant en effet à développer.
Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui veulent se lancer dans le zéro déchet ?
D'y aller sans a priori, de se faire plaisir et de tenter l'expérience. Et même si au final, ils retiennent, au bout de parcours, ils retiennent un geste, c'est toujours ça de gagner en fait. Si chacun fait un geste, je pense qu'on gagnerait beaucoup.
Dernière question, à votre avis, à quoi ressemblera le zéro déchet dans 10 ans ?
Je pense qu'il y aura vraiment cette démocratisation du vrac parce qu'on le voit ça, enfin, sur toute la France, si on prend l'échelle de la France, il y a de plus en plus d'épiceries, des petites, des moyennes, des grandes. J'imagine peut-être aussi en termes de coût, en termes de prix, peut-être que le vrac soit plus accessible à tout le monde. Et puis moi, ce que j'aimerais à titre personnel, c'est qu'il y a aussi peut-être un axe plus pédagogique qui soit mis en place, notamment auprès des enfants. Parce que c'est pour eux qu'on le fait et c'est pour leur avenir.
Merci Madame Lenand d'avoir été présente avec nous et d'avoir répondu à nos questions.
Et voici Rebel Yell de Billy Idol, sorti en 1983.
De retour à Caredas et pour poursuivre cette émission sur le zéro déchet, Sylvano, tu as interrogé des membres de l'association En Vrac à l'Ouest.
Et oui, deuxième temps avec cette association qui mène notamment des ateliers zéro déchet ici à Caredas le vendredi matin. Et cette fois-ci, je demande à Elisabeth si elle pratique le compostage.
Oui, tout à fait. Donc j'ai une maison avec un grand jardin et ouais, tout le compost est...
Depuis
toujours.
Depuis toujours ?
Ouais.
Trouves-tu facile le compost ou plutôt difficile au début ?
Ah bah non, moi je trouve très facile. Moi j'ai mon seau dans la cuisine, je vais dans le jardin, je vais vider. C'est une habitude que j'ai prise depuis 30-40 ans.
C'est comme se brosser les dents au final.
C'est ça, ouais. Je n'aurais pas idée de mettre une épluchure de légumes dans la poubelle. Quoi.
Non, et puis on peut les récupérer pour faire des chips, pour les épluchures de pommes de terre.
Ça par contre j'ai jamais fait, ouais.
Bah, on met de l'huile dessus, on met au four.
Ouais.
Des chips, c'est très bon.
Non, c'est vrai, il y a plein de choses en plus qu'on peut faire. Ouais.
Bah oui, en julienne pour les.
Bah oui.
Je suis très bon cuisinier alors.
Ah bien, mais il va falloir nous montrer ça.
Ah bah quand vous voulez, on fait un atelier cuisine. Je crois qu'on va faire un bientôt en plus.
Hein, ah ouais, bah super.
Si on peut vous inviter, ça serait génial.
Ah bah ouais, avec plaisir.
Et ben j'ai tout, vous avez été super. Merci.
Merci à En Vrac à l'Ouest d'avoir accepté d'être interviewé et cela conclut notre première émission de la saison 3 de Caredas.
Merci à tous ceux qui ont investi dans ce beau projet et merci à tous ceux qui ont participé.
Et merci à Radio Nord-Bretagne de diffuser cette émission. On se retrouve en juin pour la prochaine seconde émission de l'année. À bientôt.
C'était très bien.
Oh! Viens là! Alors je vois plus grand que j'en fais! À moi il me prend le cœur, à toi il te fait rire, à toi il te fait rire!
Oh! Très bien! Tiens! Je rirai!